Et un club de la tête au carré en version confinée aujourd'hui avec nos invités éparpillés entre le studio de la maison de la radio et leur domicile, avec au sommaire aujourd'hui un journal de guerre écologique pour gagner le combat environnemental, un pamphlet sur le capitalisme pour un nouveau monde, et puis enfin les fantaisies sexuelles des animaux sous l'œil expert d'une spécialiste de l'évolution des comportements. Et je salue pour en parler le journaliste Hugo Clément qui est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
La chercheuse Emmanuelle Pouydebat qui est en ligne depuis chez elle. Bonjour.
Bonjour.
Tout comme Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille Passauvert, c'est tout à l'heure à 14h30.
Oui, avec une autre pollution que le plastique dans les mers et les océans, j'ai nommé la pollution sonore et des conséquences souvent terribles pour nos amis les poissons.
Voilà pour le sommaire de cette rediffusion du club du 6 novembre dernier, préparée par Anna Massardier et réalisée par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà, avant de partir avec vous sur le front du combat écologique, Hugo Clément, on va faire un petit tour du côté de chez Emmanuelle Pouydebat pour avoir déjà un petit aperçu, parce qu'on est très curieux de votre enquête sur la sexualité des animaux, qui fait donc l'objet d'un livre aux éditions Artaud. Alors, vous racontez des choses très étonnantes dans ce livre, sur la diversité morphologique des organes génitaux, ou bien sur les comportements. Quelle est-vous la chose la plus iconoclaste, finalement, sur laquelle vous êtes tombé en travaillant sur le sujet ?
Oh bah je dirais que chez les garçons c'est le pénis des pieuvres qui est détachable et qui repousse, et chez les femelles je dirais le vagin des dauphins qui est à labyrinthe et à clapet pour bloquer le sperme indésirable.
Ouais, j'avais aussi noté le pénis détachable, très pratique quand même à utiliser.
Hugo Clément a failli
avaler son café.
Ah, non, justement recracher son café.
Voilà, on a plein de choses en tout cas à découvrir avec vous dans quelques minutes, mais on va démarrer avec vous Hugo Clément avec ce journal de guerre écologique publié chez Fayard, vous qui êtes journaliste, qui animez et produisez cette série documentaire sur le front pour France Télévisions, vous qui frôlez le million d'abonnés sur Instagram et qui avez été le camarade de plateau de Camille Cronier
tout
sur
à fait.
Oui.
TMC et Canal Plus dans Quotidien, c'est
avec
ça ?
Avec Yann Barthès.
Exactement.
Est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà le plus écolo de toute l'équipe,
Je ne sais pas, Camille, qu'est-ce que tu en penses ?
Non, je ne crois pas.
Non.
Mais je crois qu'on n'était pas tous très écolo. Pourtant, c'était quoi ? En 2015-2016, il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Mais je pense qu'on n'était pas encore très...
Mais ça a beaucoup changé en 4-5 ans. C'est vrai qu'on a vu un basculement dans la prise de conscience et surtout dans la généralisation de cette prise de conscience.
Ouais. Vous qui êtes devenu le nouveau visage écolo de la télévision, qu'est-ce qui a été à l'origine en fait quand même pour vous de cette envie de vous consacrer maintenant à la défense de la planète
hein ? Mais je pense que ça a vraiment été mes reportages qui m'ont amené un peu partout autour du monde et j'ai été amené à constater que cette thématique environnementale, l'effondrement du vivant, de la biodiversité, du climat, se retrouvait en fait un peu partout et était au centre de plein d'autres thématiques sociétales, économiques et en découvrant par exemple les élevages intensifs, j'étais jamais rentré dans un élevage intensif, je l'ai fait, en découvrant des zones victimes de la déforestation, j'y étais jamais allé, j'y suis allé, et ben petit à petit ce sont des couches, des strates qui se sont accumulées et qui m'ont fait me dire ok, c'est de ça dont j'ai envie de parler et c'est là-dessus que j'ai envie d'informer.
Est-ce que Nicolas Hulot vous faisait rêver quand vous étiez petit garçon ? Est-ce que vous lui avez piqué la place finalement maintenant ?
Ouais, alors j'ai découvert Nicolas Hulot un peu sur le tard parce que je regardais pas, mais je crois que j'étais peut-être un peu trop jeune pour avoir vraiment été dans
ça, c'est agaçant. Ouais.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je sais pas, Camille, tu as regardé Ushuaïa quand t'étais
petite ? Oui, moi
petite.
Je regardais. Ouais, j'ai quelques années de plus.
Ouais. Moi, je crois que je suis arrivé vraiment en âge de regarder la télé quand Ushuaïa était plus vraiment au cœur de son activité.
Voilà. Donc, merci de nous rappeler que vous êtes beaucoup plus jeune que nous, Hugo Clément. Vous êtes
surtout
extrêmement
que vous,
désagréable.
Mais cela dit, aujourd'hui, j'admire beaucoup Nicolas Hulot.
Voilà. Journal de guerre écologique aux éditions Fayard. Cette sémantique guerrière, c'est elle qu'avait utilisée d'ailleurs Emmanuel Macron hein, pour parler du coronavirus en mars dernier. Vous avez vraiment le sentiment qu'il faut mener une guerre aujourd'hui au quotidien pour l'environnement ? C'est bien de ça dont il s'agit alors ?
Oui, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est une guerre qu'on est en train de livrer aux vivants. C'est ce que disent les scientifiques. On a accéléré, multiplié par 100 le rythme de disparition des espèces depuis un siècle. On a fait le vide autour de nous. On le voit au niveau de la biodiversité. On le voit avec ce qui se passe sur l'accélération du changement climatique. Et c'est une guerre qu'on doit mener contre ceux qui détruisent l'environnement, que ce soit des puissances économiques, politiques, des groupes criminels, c'est ce qu'on raconte dans ce livre. Et aussi une guerre qu'on doit mener contre nous-mêmes, contre nos propres modes de consommation et contre la manière dont on habite cette planète.
Ouais. Qu'est-ce qui est le plus efficace justement aujourd'hui pour mener cette guerre ? C'est la télévision aux heures de grande écoute ou les réseaux sociaux que vous utilisez abondamment ?
Je pense que les deux sont indispensables parce qu'on ne parle pas aux mêmes personnes en faisant une émission à 21h sur France Télévisions et en faisant du contenu sur Instagram. Donc c'est important justement de faire les deux et c'est pour ça que les deux me tiennent beaucoup à cœur.
Ouais. Les réseaux sociaux, ça fait un petit côté lanceur d'alerte aussi. Ça permet justement, vu le nombre d'abonnés, de pouvoir mettre le doigt et de médiatiser justement certaines choses qui se passent.
Ouais, et ça permet un lien vachement plus direct, je trouve, avec les personnes qui suivent le contenu. Moi, il y a beaucoup de sujets que je fais pour Sur le front. Il y a beaucoup de sujets qui sont dans ce livre et qui sont le fruit d'alertes que m'ont envoyé certains abonnés qui m'ont dit « Regarde, il se passe ça à tel endroit, intéresse-toi à ça, ça peut être important ». Et il y a beaucoup de sujets que je fais au final qui partent de là, d'une interaction avec les abonnés.
Quand on regarde justement votre compte Instagram, parmi vos derniers posts, il y a la multiplication des pandémies avec ce rapport des scientifiques de l'ONU, le gazage des visons au Danemark, suspecté de transmettre le coronavirus, ou les mensonges d'une influenceuse au sujet d'un faux partenariat avec la fondation Brigitte Bardot. Comment vous faites le tri finalement entre toutes ces infos et vous avez une armée avec vous ou pas ?
Alors j'ai pas une armée mais j'ai une équipe, une très bonne équipe. On est une quinzaine à travailler sur les émissions et sur tous les contenus qu'on produit. Et c'est vrai que c'est difficile de faire le tri parce que malheureusement, j'ai envie de dire, l'actu environnement, et vous êtes bien placé ici pour le savoir, est inépuisable, et pas forcément dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tous les jours ou presque, il y a une étude alarmiste qui sort, tous les jours ou presque, il y a des scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme sur quelque chose. Donc, il faut faire le tri, et il faut surtout essayer d'avoir un équilibre entre les mauvaises nouvelles, qui sont malheureusement très nombreuses, et aussi les espoirs et les choses qu'on peut mettre en lumière et qui donnent envie aux gens de se battre. Parce que si on se contente de dire qu'on est dans une situation catastrophique et qu'on va tous crever, pardon pour l'expression, c'est difficile de mobiliser et de se dire qu'on peut encore faire quelque chose.
Ça, c'est une des grosses difficultés pour le documentaire, justement, à la télévision, aux heures de grande écoute, c'est de pouvoir toucher le public en traitant quand même des sujets à la base ultra anxiogènes.
Oui, et c'est pour ça qu'on prend, nous, le prisme des combattantes et des combattants, des gens qui, sur le terrain, protègent ce qui peut encore être protégé et propose des solutions alternatives à ce qu'on fait aujourd'hui. On veut montrer qu'il est possible de faire autrement et qu'il y a des gens qui remportent aussi des victoires sur la question environnementale.
Et est-ce que finalement il y aurait des cibles privilégiées sur les réseaux sociaux ? En tout cas, il y a peut-être un côté d'ailleurs plus politique que de faire un docu pour être diffusé à la télévision. Est-ce que c'est un moyen de politiser certains sujets et de s'en prendre à certains comme les chasseurs par exemple ou les agriculteurs qui font de l'agriculture intensive, si je dois en citer deux ?
Alors, pour moi, la question de l'environnement, elle est politique. Elle n'est pas politicienne, mais elle est politique. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont en responsabilité, qui prennent les décisions qui ont un impact sur nos vies à toutes et tous. Et c'est une question politique dans le sens où on doit décider ce qu'on veut faire en tant que société, en tant qu'État, et ce qu'on veut faire surtout pour inverser la tendance et bifurquer par rapport à la route sur laquelle on est aujourd'hui, qui nous conduit droit dans le mur. Donc clairement...
Il y a des cibles privilégiées ou pas, les chasseurs ?
Il n'y a pas de cibles privilégiées. Il y a des causes principales de perte de biodiversité, il y a des causes principales de changement climatique, il y a quand même une hiérarchie à faire dans ce qui se passe. On peut pas mettre sur le même plan quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours pour aller bosser et le patron d'une entreprise qui exploite du charbon, par exemple. Tout le monde n'est pas responsable au même niveau de ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a aussi une responsabilité collective et individuelle sur la manière dont on vit et là-dessus, on peut avoir une prise directe et ça, c'est vachement important. J'insiste vachement là-dessus dans mes contenus et dans la manière dont je traite ce sujet-là. C'est à chaque fois de donner des pistes d'action aux gens qui regardent les documentaires ou qui regardent les documentaires sur les réseaux sociaux pour leur proposer d'agir et leur donner des pistes d'action.
Et Hugo Clément, votre travail, c'est aussi parfois de plonger comme en Méditerranée aux côtés de l'apnéiste Guillaume Néry.
Au même endroit, on peut voir à la fois les dégâts causés par l'homme, mais on peut voir aussi que la vie peut revenir. Et tout ça à quelques centaines de mètres d'écart.
Donc on va aller explorer les fonds ensemble.
Ouais, je vais t'amener.
À 37 ans, Guillaume Néry est double champion du monde d'apnée. Ce niçois d'origine ne reconnaît plus la mer où il plonge depuis son enfance.
Ça va Guillaume ? T'as besoin d'un coup de main ?
C'est bon.
Guillaume veut me faire plonger sur deux sites du Var pour me montrer le contraste saisissant. Pour ma première apnée, ce sera au cœur du parc national de Port-Cros, et plus précisément à la Gabinière. Ici, toute forme de pêche est strictement interdite. Depuis 20 ans, les poissons vivent dans ces lieux en toute tranquillité.
Là, c'est peut-être un des endroits en Méditerranée où on peut voir le plus de poissons différents.
Voilà, Guillaume Clément. Il y a aussi des belles choses.
Guillaume Néry, Hugo Clément.
Il y a quand même des belles choses à montrer aussi à la télévision.
Bien sûr.
Il n'y a pas toutes les catastrophes du monde.
Bien sûr, ça reste fondamental de montrer qu'on habite une planète extraordinaire où il y a encore des écosystèmes qui sont préservés. Et c'est justement la raison du combat.
Chaque année, des dizaines de journalistes dans le monde se font tuer en menant des enquêtes justement sur ces dossiers environnementaux. Est-ce que vous avez le sentiment vous-même de prendre des risques en allant sur le terrain, parfois comme au Costa Rica, quand vous suivez des chasseurs de requins en l'occurrence?
Oui, il y a des moments où on se sent pas très en sécurité. Quand on est allé au Mexique faire du braconnage avec le cartel de Sinaloa, qui est un cartel de trafiquants mexicains très dangereux et très connu, effectivement, il y a des moments où on se dit s'ils veulent nous faire disparaître, on est tout seul avec eux au milieu de la mer sur une petite barque avec que des gens cagoulés, s'ils veulent nous faire disparaître parce que les questions ne leur plaisent pas, ils peuvent. Mais les gens qui prennent vraiment les risques, c'est pas moi, c'est pas mon équipe, parce que nous on vient, on reste une semaine, deux semaines, trois semaines et puis on rentre. Les gens qui prennent les vrais risques, ce sont les militants de ces pays-là qui toute l'année sont exposés, toute l'année s'engagent et qui malheureusement parfois le payent de leur vie.
Hervé Kempf, le journalisme d'investigation dans le domaine de l'écologie, ça a toujours été risqué, vous qui avez une vue d'ensemble de plusieurs décennies sur le sujet?
Ça devient plus risqué en France, on va y revenir. À l'étranger, effectivement, c'est délicat, mais je pense qu'il y a surtout une augmentation de la violence, de la brutalité policière qui monte depuis, je ne saurais pas dater ça, peut-être 10, 15 ans, que l'on voit effectivement dans les statistiques par les rapports de Global Witness, par exemple. Mais même en France, on a de plus en plus, on est confronté à des brutalités policières ou à des formes de répression policière, quand on fait maintenant du journalisme environnemental. Enfin, nous, c'est arrivé à un reporter qu'en juin, un de nos journalistes, Alexandre Reza Kokabi, soit conservé en garde à vue pendant une journée, alors que simplement il suivait une action sur l'aéroport de Roissy d'activistes pour le climat. Ou encore, en octobre, on a eu deux journalistes qui ont eu un PV parce qu'ils avaient là aussi fait leur travail d'informer en suivant des activistes du climat. Alors évidemment, c'est pas un danger comparable à celui qu'on évoquait, qui sont sur des terrains à l'étranger, encore que maintenant, une fois de plus, la violence policière devient tellement grande, y compris à l'égard de militants écologistes, que ça devient difficile. Je dois rappeler qu'en 2018, nous, on avait eu une journaliste blessée au genou par une grenade, et c'est arrivé à d'autres journalistes aussi sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes. Donc, oui, il y a une montée de la violence et de la radicalisation des luttes environnementales et des adversaires ou de ceux qui veulent imposer des projets destructeurs de l'environnement.
Hugo Clément, donc des témoignages sur l'ensemble du monde, de la planète, puisque vous avez beaucoup voyagé justement pour vos reportages, mais il y a aussi des combats et une guerre à mener en France. Il y a des exemples aussi que vous citez très près de chez nous.
Bien sûr, on parle notamment du Jura à travers un homme qui s'appelle Gilles Moine et qui est à la tête d'un centre de soins de la faune sauvage dans le Jura et qui lutte depuis de très longues années pour protéger le lynx. Il reste des lynx chez nous en France, beaucoup de gens ne le savent pas, entre 120 et 150, donc c'est une population qui est très fragile. Et cette population, elle est victime à la fois de collisions routières et de braconnage. C'est une espèce protégée, donc c'est évidemment illégal de la chasser, mais il y a quand même des gens qui, à l'abri des regards dans la forêt, décident de tuer volontairement ces animaux-là pour une simple question d'ego, parce qu'ils ne supportent pas que les lynx puissent eux aussi chasser le chevreuil.
Le titre du livre Journal de guerre, écologie, guerre, c'est un mot qui frappe. Ouais. Les accusations, plutôt les critiques sur l'éventuelle démagogie dont vous faites l'objet, qu'est-ce que vous, tu réponds?
Alors, je... moi, le titre « Guerre écologique » qui m'est venu à un moment très particulier, c'était un reportage aux îles Féroé, quand je suis allé assister à un massacre de dauphins. C'est une chasse traditionnelle là-bas qui s'appelle le Grindadrap. Ils rabattent des bancs de dauphins globicéphales vers les plages, ils les tirent sur le sable avec des crochets, et puis ils les tuent à coups de couteau, et toute la mer devient rouge. C'est un bain de sang au sens propre. Et c'est à ce moment-là que ce titre m'est venu, parce que j'avais vraiment l'impression d'assister à une scène de guerre avec ces victimes, avec ce sang, avec cette destruction. Et je pense qu'on peut dire sans abuser que c'est une guerre, parce que il y a des gens qui le payent de leur vie, on l'a dit, et les gens qui vont subir les conséquences de cette guerre-là dans les décennies qui viennent, les scientifiques nous le disent, ce sera des dizaines de millions de personnes qui vont avoir leur vie bouleversée, qui vont mourir, qui vont devoir changer totalement leur manière de vivre à cause du changement climatique, à cause de l'effondrement du vivant. Il y a, d'ici 2070, dans 50 ans, un tiers de la population mondiale qui devrait habiter dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui. Donc, on peut parler d'une guerre parce que les conséquences pour la population civile seront extrêmement importantes, extrêmement dommageables, probablement plus encore que toutes les guerres qui ont précédé.
Hugo Clément, lorsqu'on veut éveiller les consciences pour sauver la planète, lorsqu'on initie aussi un référendum sur la protection animale, est-ce qu'on s'imagine aussi un avenir politique finalement ?
Non, politicien en tout cas pas. Moi, ça m'intéresse
Libération,
pas.
Libération, vous avez dit, vous m'avez écrit que vous seriez ministre de l'environnement du gouvernement Schiappa dans un article un peu ironique.
Je sais pas s'il y aura un gouvernement Schiappa, mais non, c'est pas du tout. Moi, c'est pas du tout mon objectif. J'ai l'impression d'avoir plus d'impact et plus de poids sur les choses à travers mon métier de journaliste, en informant, en élevant le niveau d'information sur les questions environnementales, qu'en faisant de la politique. En tant qu'élu.
Ça s'appelle Journal de guerre écologique, c'est publié chez Fayard. Vous restez avec nous, Hugo Clément, et dans un instant, on va justement accueillir un autre homme que vous venez d'entendre, qui lui aussi est entré en guerre contre le capitalisme, c'est Hervé Kempf. Black Cat, c'était Black Pumas à l'instant.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Et dans le club, nous avons un autre guerrier avec nous, Hervé Kempf. Heureusement qu'on va parler d'amour avec vous, Emmanuel Pudebas, d'ailleurs, dans cette émission. Hein.
Oui, bah, un petit peu de légèreté de temps en temps, ça fait pas de mal, même si je partage complètement les batailles dont on a parlé précédemment.
Hein. Ouais, Hervé Kempf, vous aussi, vous êtes en guerre, rédacteur en chef de Reporter, et vous êtes en guerre contre le capitalisme. C'est l'objet de ce livre, Que crève le capitalisme. Vous y êtes allé direct, hein, dans le titre, Hervé Kempf, ça paraît au seuil.
Oui, tout à fait. On va dire pourquoi, mais fondamentalement, c'est pas nous qui sommes en guerre, c'est le capitalisme qui est en guerre. Je crois que les écologistes, ils sont d'abord admiratifs de la beauté du monde, que ce soit à la porte de nos rues, dans les champs ou à l'autre bout du monde. C'est ce sentiment de d'émerveillement devant la nature qui motive très souvent la majorité des écologistes, qui sont généralement en plus non violents. Enfin, quand on se bagarre contre l'élevage industriel ou contre la déforestation, c'est d'abord parce qu'on a le souci de ne pas avoir collectivement une conduite violente à l'égard du vivant, à l'égard de l'ensemble de la biosphère. Mais ce qui se passe effectivement en ce moment et qui justifie, qui légitime, qui explique le fait que des gens calmes, des journalistes, des gens fondamentalement pacifiques et pondérés soient obligés d'employer des termes forts, c'est ouais. qu'il y a effectivement une guerre du capitalisme qui se déroule à l'heure actuelle. Alors on peut lui donner des mots différents, mais c'est ça qui se passe. Et moi, je pense que c'est le capitalisme et les capitalistes d'aujourd'hui qui sont en guerre contre tout ce qui permet à la société de s'épanouir, aux gens de vivre simplement normalement, en s'occupant de leurs enfants, en travaillant normalement, en ayant et là, on a une telle catastrophe écologique qui se poursuit que ça met en péril véritablement la ouais. possibilité d'une existence digne de l'ensemble des humains.
Sauf que Hervé Kempf, quand même, quand on vous lit, on lit en filigrane qu'il y a quand même un combat aussi à mener du côté des écologistes contre le capitalisme.
Tout à fait. Moi, je suis un peu parti d'une phrase de divers intellectuels qui disaient « Il est plus facile maintenant d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et ça me taraude depuis quelques années. Et c'est vrai que tout le monde est finalement d'accord presque pour dire « Mais oui, c'est l'effondrement, c'est la catastrophe climatique, c'est la sixième extinction des espèces, il va plus y avoir d'Amazonie, etc. » Mais quand on dit aux gens « Mais... si on arrêtait le capitalisme, ils disent « mais c'est pas possible, c'est absolument indéracinable, c'est indestructible ». Donc moi je veux renverser cette logique et dire « il est plus gai d'imaginer la fin du capitalisme que d'accepter la fin du monde ». Et je pense qu'effectivement il y a maintenant toute une génération qui vient à la politique, au bon sens du mot, hein, c'est ce qu'on disait, ce que disait Hugo Clément tout à l'heure avec raison, c'est pas la politique politicienne, c'est la vraie politique, celle qui concerne notre destin collectif, la façon dont on fait les choix ensemble. Il y a toute une génération qui arrive par le climat, par d'autres raisons, par la stupéfaction devant la catastrophe écologique, qui ont besoin, me semble-t-il, d'avoir une vision positive des choses. Et la vision positive des choses, c'est de se dire on se bagarre, on connaît nos adversaires, on démontre la façon dont ils détruisent le monde, et comme on veut empêcher ça, on va développer des stratégies d'action qui empêchent cette évolution absolument désastreuse.
Et Hervé Kempf, je parlais tout à l'heure de démagogie à Hugo Clément, est-ce que c'est pas un peu démago aussi de dire mort au capitalisme? Est-ce que c'est pas un discours un peu facile, voire un peu cliché? Et donc contre-productif?
Oui, mais vous avez posé cette question à Hugo Clément comme à la mienne. Je pense que, parce qu'on a la même réaction, c'est de se dire ce qui est en train de se passer est tellement grave qu'il faut bien mesurer ce qui est en train de se passer. Et il faut le qualifier, il faut lui donner des mots. Donc moi j'emploie ce titre, j'ai utilisé ce titre, que crève le capitalisme, pour interpeller. Mais après il y a un raisonnement, il y a une démonstration, il y a l'analyse, et notamment d'expliquer ce qui est en train de se passer dans l'évolution du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est pas une essence, une sorte de divinité qui existerait, c'est un phénomène historique. On est à l'heure actuelle dans un moment très particulier du capitalisme, qui est en gros la fin du capitalisme, mais il est encore extrêmement puissant, et il est en train de se passer quelque chose, c'est une évolution du paradigme des dominants, des capitalistes, qui s'appuient sur la technologie et qui laissent de facto la question écologique totalement de côté.
Oui, d'ailleurs, après 2008 et 2009, hein, on a pensé que le capitalisme allait vraiment s'engouffrer dans les abysses, et pas du tout. Hein. Vous expliquez bien, vous rappelez qu'il s'est au contraire renforcé, et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de riches qu'aujourd'hui sur la planète.
Voilà, mais surtout, c'est ça qui m'a frappé, c'est que logiquement, après 2008-2009, qui était une crise financière absolument considérable, hein, qui a failli voir s'effondrer l'ensemble des économies, le capitalisme, normalement, aurait dû se remettre en cause. On aurait dû se dire, on va reprendre le contrôle sur les marchés spéculatifs qui nous ont conduits à cette situation, on va reprendre le contrôle des banques, on va, puisque c'est l'État et les contribuables, au passage, qui ont sauvé toute la situation, on va redonner un nouveau rôle à l'État pour réorienter l'économie dans un bon sens. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un système de domination ne peut pas tenir si les dominants n'ont pas une vision de l'avenir. Il leur suffit pas tout à fait de juste vouloir accumuler du capital et être toujours plus riche, même si c'est important pour eux, mais il faut qu'ils aient une sorte de vision du monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont réarmés idéologiquement sur la base d'une matrice idéologique qui venait de la Silicon Valley, du développement de l'informatique, d'Internet, et avec quelque chose qui important qui s'est passé à peu près à ce moment-là, autour de 2010, c'est l'arrivée d'un progrès technique très fort en intelligence artificielle, qui s'appelle le deep learning, ça veut dire l'apprentissage profond. Donc il y a eu un progrès très considérable en intelligence artificielle, notamment en reconnaissance d'images, en reconnaissance de la parole, et qui a été tout de suite saisi par les GAFAM. Vous savez, ces grands, ces énormes Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, qui s'en sont saisis tout de suite. Ça leur a donné une impulsion énorme. Par exemple, les cours de bourse et la puissance financière de ces sociétés a considérablement augmenté en 10 ans. Monsieur Bezos, le patron d'Amazon, est maintenant l'homme le plus riche du monde, avec près de 1000 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Ils ont une confiance en eux particulière, ils ont un pouvoir d'action extrêmement fort, et ils ont une idéologie bien particulière qui est la technologie va répondre à tout, nous sommes les meilleurs et c'est la compétition et l'individualisme qui décide. Et puisque la technique va répondre à tout, elle est aussi orientée dans un sens qui conduit à une sorte de fusion entre la machine, l'intelligence artificielle et les humains, jusqu'à conduire à une sorte de d'élite, de classe supérieure. C'est des termes très précis qu'emploie par exemple Monsieur Harari dans son livre Homo Deus, qui est une sorte de manifeste du néo-capitaliste. Et donc, il va y avoir cette humanité qui va aller vers la machine, très intelligente, qui va s'hybrider vers le transhumanisme, etc. Et puis, le reste de l'humanité qui va vivre comme des castes inférieures, pour reprendre les termes d'Harari, par exemple, et qui vont survivre dans le chaos climatique, dans la catastrophe écologique, et aussi, puisque l'intelligence artificielle, tous les spécialistes le reconnaissent bien, à commencer par Bill Gates, ce qu'il a dit très clairement, qui va créer un énorme chômage si ça se développe. Et voilà le monde dans lequel on se dirige si on les laissait faire.
Hugo Clément, Hervé Kempf parlait de la radicalité aujourd'hui, la radicalité des mots aussi que crève le capitalisme. Vous, en tant que journaliste aussi, vous le notez, vous l'observez, vous l'utilisez aussi cette radicalité dans les mots ou pas ?
Mais je pense que la radicalité, elle est là parce qu'on est dans une situation qui est radicale. Ce qui est en train de se passer est radical. L'effondrement du vivant, l'effondrement de la biodiversité et tout ce qui s'ensuit, c'est radical. En 2050, il y aura probablement plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est une étude scientifique qui a pointé ce fait-là. Toutes les données qu'on a sont des données ultra radicales. Donc forcément, en face, il faut une réaction radicale. Ça ne veut pas forcément dire violent, ça ne veut pas forcément dire extrémiste. La radicalité, ça peut être positif aussi. Et on a besoin aujourd'hui, et ce sont les scientifiques de l'ONU qui le disent, ce n'est pas des associations d'activisme radicaux qui tiennent ce discours-là. Ce sont les scientifiques de l'ONU, les scientifiques du GIEC, qui nous disent qu'on a besoin de mesures fortes, de mesures radicales, dans les quelques années qui viennent, si on veut éviter de se prendre le mur en pleine face.
Hervé Kempf, ce sera ma dernière question, mais est-ce que le sabotage fait partie de vos propositions pour lutter contre le capitalisme ?
Oui, mais ça suppose une courte explication. C'est que, d'une part, il faut avoir une stratégie qui prend en compte toutes les possibilités de lutte. Et donc c'est pas seulement le sabotage qui, on va y revenir en un mot, mais c'est la pétition, c'est la manifestation, c'est travailler aussi à travers des élus qui ont un rôle à jouer, c'est travailler avec des expertises, c'est travailler dans la justice et éventuellement défaire quelque chose qui est dangereux. Et le sabotage, alors moi je me suis beaucoup inspiré de Nelson Mandela, paradoxalement, dont j'ai découvert l'immensité du personnage en lisant sa biographie. Et Nelson Mandela était pas seulement le bon grand-père qui a joué un rôle au bon sens du terme, extraordinaire au moment de la libération de l'Afrique du Sud. Mais d'abord, c'était un combattant, c'est quelqu'un qui a passé des années en prison. Et pourquoi il a passé des années en prison ? Parce que à un moment donné, il s'est rendu compte que comme rien ne marchait avec ses camarades, ils ont été dans la voie armée. Alors, c'est pas du tout ce que nous voulons faire, mais je pense qu'il faut aussi avoir ça dans les registres d'action. Mais quand on parle de sabotage, ça a été utilisé par le mouvement écolo très récemment et de manière très efficace. C'était le cas des faucheurs d'OGM. Dans toutes les années 2000, c'était une grande bagarre, les OGM, qui finalement a été vaincu, gagné, remporté, et parce que notamment il y a eu, on peut appeler ça du sabotage, et ben des fauchages de champs transgéniques qui étaient et ça a été une action efficace.
Juste en un mot simplement, la relance, la croissance verte louée par le gouvernement et même le programme de Joe Biden qui veut fonder son programme écologique sur les énergies renouvelables qui vont apporter des millions d'emplois, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez en un mot?
En un mot, tant qu'on imagine une politique économique qui ne place pas en priorité la sobriété et la réduction des consommations matérielles, on fait fausse route.
Merci beaucoup Hervé Kempf. Ce livre que crève le capitalisme, donc ce sera lui ou nous, eh bien il est publié au Seuil. Dans un instant, Camille Passauvert, rediffusion de la chronique du 25 août sur la pollution sonore dans la Méditerranée. C'était Pomme.
France Inter. La Terre au carré.
On passe au vert avec vous, Camille Cronier, pour parler d'une autre pollution, Camille, qui touche aussi les océans.
Oui, j'ai nommé donc la pollution sonore. Fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant, bien sûr. Fermez les yeux, donc, et imaginez-vous, petit poisson en train de nager peinard dans les profondeurs. Quand arrive, écoutez, le son est pris sous l'eau. Alors c'est un ferry qu'on entend, nous sommes au large de l'île de Porquerolles dans la Méditerranée et les bruits des bateaux font partie de ce qu'on appelle l'anthropophonie, hein, les sons générés par l'homme qui ne cessent de s'amplifier depuis la révolution industrielle. Travaux sur le littoral qui peuvent faire de gros bruits soudains, fermes éoliennes ou hydroliennes et trafic maritime en bruit de fond continu. Le cocktail est assourdissant pour la faune sous-marine, c'est le chercheur du CNRS en bioacoustique Hervé Glotin qui me l'a expliqué, il est à l'université de Toulon.
L'humain envahit les océans et recouvre la biophonie, donc tous les sons produits par la faune. Il y a une concurrence et en fait on masque les émissions acoustiques des animaux. Et là, il y a un vrai danger de dénaturer les échanges entre animaux et leur équilibre dans l'environnement.
Oui, car c'est avec le son que les poissons et autres cétacés communiquent, socialisent et chassent. Donc notre pollution sonore perturbe tout.
Par exemple, sur les orques, on constate que lorsque les tankers entre Seattle, Vancouver traversent la zone de vie de ces orques, les animaux perdent 5 décibels pendant plusieurs minutes d'acuité de leur système auditif. 5 décibels, hein, ça correspond à entendre à peu près deux fois moins loin que d'habitude.
Perte de repères, un peu comme s'ils étaient aveuglés par le bruit, avec donc une dénutrition possible puisqu'ils chassent moins bien. Et ce n'est pas tout, cette anthropophonie peut aussi leur faire si peur qu'ils en meurent.
Une perturbation acoustique trop puissante va générer un stress parfois tellement fort chez ces animaux qu'ils vont fuir la zone de bruit trop rapidement. Et on le voit sur les baleines à bec. Elles vont remonter, ces baleines à bec, après des essais de sonar militaire par exemple, elles vont remonter trop vite en surface et elles vont avoir des embolies pulmonaires et cérébrales suite à ce stress induit par cette perturbation acoustique.
Car les sonars militaires dont il parle, en plus, ressembleraient à s'y méprendre aux vocalises des prédateurs de ces baleines à bec qui fuient donc un ennemi invisible.
Vous avez peut-être dans la tête du cétacé l'image d'un prédateur vraiment très très proche. Donc c'est une fuite contre le fait de se faire manger simplement par ce super prédateur qui est dans toutes les directions. Imaginez l'angoisse. Hein.
Les pauvres petites baleines, on ne se rend pas compte de ce qui se passe sous l'eau. Hein.
Est-ce que la période de confinement a changé quelque chose à cette pollution sonore, Camille ?
Eh bien, écoutez la différence. Donc le ferry, on se rappelle, et top confinement.
Incroyable. Qu'est-ce qu'on entend là ?
Alors là,
ça grésille.
Ce sont des crevettes et des poissons, rien d'autre. Incroyable. Et la mer, évidemment. Ouais. Figurez-vous qu'Hervé Glotin, qui a fait ses sons avec son équipe, était en mission en Méditerranée depuis le début de l'année. Ils ont eu une dérogation pendant le confinement pour enregistrer un paysage sonore unique, sans aucune donc, pollution à proximité des côtes. Ils ont pu observer de leurs bateaux silencieux, par exemple, des grands dauphins, les Tursiops, qui sont restés une heure avec leurs petits, alors que d'habitude, ils ne font que passer rapidement.
Et là, il n'y a pas de trafic depuis des jours et des jours. Ils sont chez eux tout seuls. Et on voit, ils ne sont pas stressés. Enfin, ils prennent leur temps. Ils ne tracent pas, ils ne se déplacent pas, ils restent sur site.
C'est calme, hein ?
C'est magnifique.
Et sous l'eau, écoutez aussi, ça
donne la chair de poule.
Écoutez. Alors là, c'est pas des dauphins, mais presque. Ce sont des globicéphales qu'il a enregistrés en mars. 9 décibels en moins pour la pollution sonore au total dans la zone qu'il a explorée en Méditerranée. Le confinement donc a eu des effets exceptionnels puisque c'est une puissance sonore divisée par 10. Mais ne nous emballons pas trop parce qu'au large, au-delà de 12 000, les cachalots et les rorquals, par exemple, n'ont pas vraiment entendu de différence puisque les bateaux de commerce et militaires ont continué de naviguer. Pourtant, la solution n'est pas très compliquée, en l'occurrence, pour réduire durablement la pollution sonore. Baisser la vitesse des bateaux de 10 à 20% seulement, ça a été testé au Canada avec 3 décibels en moins à l'arrivée, c'est déjà beaucoup. Mais la tendance est malheureusement inverse, les bateaux vont de plus en plus vite.
Voilà, Camille Passauvert, Emmanuel Cudebas. On va vous retrouver dans un instant parce qu'il y a plein d'histoires de sexualité d'animaux dans ce livre qui paraît chez Artaud. Vous êtes la dernière invitée de ce club de la Terre au carré.
Instinctively, you give to me the love that Upside Down, c'était Diana Ross.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et on termine avec vous, Emmanuelle Puitbat, donc directrice de recherche au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes spécialiste de l'évolution des comportements. Quels sont d'ailleurs les animaux que vous étudiez, vous, habituellement ?
Oh bah un petit peu de tout. Moi, j'ai beaucoup commencé par les primates, mais je travaille des éléphants aux écrevisses, en passant par les gorilles, des carnivores, des Bernard l'ermite. Ouais. Tout dépend des questions scientifiques posées. Moi, je m'intéresse à plein d'animaux.
Bon, mais vous vous intéressez et vous travaillez avec de vrais animaux ?
Ah bah oui.
Donc vous allez sur place à
pour
chaque fois pour les étudier ?
Oui. Alors, en fonction des questions scientifiques, ça peut être en milieu naturel, ça peut être en parc zoologique, ça peut être en laboratoire. Tout dépend des questions qu'on se pose, mais c'est très ouvert.
Sexus animalus.
Et ça peut être les deux.
C'est
pour une espèce, on peut être amené à aller partout.
Voilà, ce livre donc qui paraît aux éditions Artaud, qui montre une incroyable diversité d'organes et de comportements sexuels chez les animaux. Est-ce que d'ailleurs on comprend pourquoi il y a autant de diversité chez les bêtes?
Ah bah, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'apanage de la sexualité. Hein. De toute façon, la diversité des comportements et de la morphologie, elle est liée à des centaines de millions d'années d'évolution pendant lesquelles les animaux ont dû s'adapter pour survivre, tout simplement, tout complexement. Et du coup, ça a donné lieu à une grande diversité de comportements et de morphologie. Et ça, les organes sexuels, bien sûr, sont impliqués dans cette diversité. D'autant plus qu'il y a une forte compétition pour l'accès aux femelles, hein, pour s'accoupler, se reproduire. Donc plus il y a de compétition, plus il y a de diversité.
Ouais. Alors vous dites que dans ce domaine, hein, on connaît mieux les organes génitaux masculins, ben tiens, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu d'informations sur les organes génitaux féminins chez les animaux ? Il y a du sexisme aussi dans ce domaine ?
Oui et non. Disons qu'à une certaine époque, je pense qu'effectivement il y en avait. On a quand même à une époque beaucoup plus étudié les mâles que les femelles, pas seulement pour les organes génitaux ou les comportements sexuels, hein, d'une manière générale, quels que soient les comportements et les études anatomiques. De manière plus récemment, je dirais pas que ce soit un problème de sexisme. C'est aussi parfois un problème de disponibilité des animaux pour les études, que ce soit pour le comportement ou pour l'anatomie. On fait parfois avec ce qu'on a, et c'est parfois plus facile d'observer des mâles en plus grand nombre que des femelles. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme effort à faire sur plein de questions scientifiques, et en particulier cette question des organes génitaux, parce que si on connaît pas les organes génitaux des femelles, on peut pas comprendre tous les principes de coévolution, c'est-à-dire comment le sexe mâle va évoluer en fonction du sexe des femelles et inversement. Donc c'est extrêmement dommageable d'un point de vue purement scientifique.
Alors Emmanuelle Puitbat, il faut nous donner des exemples, parce qu'il y en a plein évidemment dans ce livre, et je suis sûr que nos auditeurs en attendent impatiemment. Alors parlez-nous par exemple du crocodile, le crocodile marin avec son pénis en gouttière, qui est le premier exemple que vous citez. Mais pourquoi serait-ce le pénis primitif ?
Alors, je pense qu'il y a l'origine des crocodiles. En gros, hein, c'est à peu près 300 millions d'années. En gros, il y avait probablement des pénis encore plus anciens. Hein, ça remonte entre 400 et 500 millions d'années. Je ne vais pas prendre beaucoup de risques, mais les premiers pénis, en tout cas, ils sont aquatiques. J'ai pris l'exemple de ce crocodile parce qu'on peut avoir une idée effectivement du type de pénis en gouttière que pouvaient avoir les premiers animaux qui, à l'époque, étaient dans l'eau. Les pénis sont apparus d'abord dans l'eau, même si c'est la fécondation externe qui prévaut dans l'eau. Mais les premiers pénis, on peut imaginer qu'ils ressemblaient à ceux des crocodiles, avec une érection permanente, mais qui est interne au corps et qui sort uniquement pour l'accouplement.
Ouais. Alors, il y a également l'exemple des canards, Emmanuel Puy-de-Bas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ressemble le pénis d'un canard? Je m'y suis jamais trop penchée.
Oui. Je pense que vous regarderez plus les canards. Les canards, je les appelle vraiment les violeurs au tire-bouchon, et c'est un excellent exemple de coévolution. D'abord, faut savoir qu'il y a environ que 3% des oiseaux qui ont un pénis. Hein, ça, c'est un mystère évolutif qu'on essaye de comprendre. Dont les canards, qui ont un pénis en tire-bouchon. Il faut vraiment imaginer un tire-bouchon. Il y a pas d'autre image à donner. Lui, il a une érection.
Hugo Clément est horrifié, Emmanuel Puy-de-Bas.
Non, je suis fasciné. Horrifié, je suis fasciné.
Sous son masque, il a l'air horrifié.
Mais si vous êtes horrifié, la suite est pire. Hein, donc asseyez-vous bien. Donc il dispose en fait d'une érection explosive avec un pénis d'ailleurs qui va dégénérer puis repousser pour de nouveau s'accoupler. Et en retour, en fait, enfin en retour avec des millions de guillemets, les femelles ont développé des vagins qui sont sinueux. Qui sont parfois opposées à la torsion du sexe du mâle, et elles ont aussi développé des stratégies pour limiter en fait les accouplements, ou en tout cas la fécondation avec les mâles qu'elles ne souhaitent pas, puisqu'elles ont des clapets qui vont aussi bloquer le sperme non désiré. Donc c'est un mécanisme qui est assez fascinant chez les canards, qui sont de temps à autre relativement violeurs, faut le reconnaître. Donc les femelles ont essayé de riposter à leur manière.
Hugo Clément, est-ce que vous avez déjà observé des éléphants au cours de vos pérégrinations?
Alors, j'ai déjà vu des éléphants, mais j'ai jamais vu des éléphants s'accoupler. C'est vrai que la vie sexuelle des animaux, c'est souvent très mystérieux. Je trouve ça absolument passionnant, ce qu'elle raconte.
On va écouter un petit extrait du zapping sauvage autour de la sexualité de l'éléphant, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à en dire.
Ce mâle est dans une phase d'excitation sexuelle appelée must. Son taux de testostérone est au plus haut et il cherche une partenaire. La femelle choisit souvent le mâle le plus grand, mais il faut tout de même qu'il la séduise. Le mâle se rafraîchit un peu pour calmer ses ardeurs. Pour ce pas de deux, c'est la femelle qui décide. Mais son intérêt ne dure que 3 jours. Ce grondement sourd indique que la femelle est excitée. Pour les éléphants, le concept d'intimité n'existe pas vraiment. Toute la famille assiste aux ébats.
Emmanuel Puy-de-Bas, alors l'éléphant, vous en parlez. Alors là, on est dans le domaine des records quasiment, hein, quand même, hein, sur le pénis du mâle, par exemple.
Oui, non, bah, c'est sûr que en termes de longueur, on fait difficilement mieux, sauf en termes de longueur par rapport à la taille, où il y a des records chez des petits crustacés.
C'est combien?
Les records chez des crustacés comme le bernacle, par exemple, c'est 8 fois la longueur du corps. Hein.
Et l'éléphant?
Ça devient comprendre.
Oui, quand même. Après, c'est parce que c'est un petit crustacé qui est attaché à son substrat, donc il a besoin d'avoir un zizi relativement long pour pouvoir s'accoupler, le pauvre.
Et l'éléphant,
chez l'éléphant, écoutez, ça peut être à plus d'un mètre cinquante, hein. Je vois bien les dernières images que j'ai en tête. c'est à peu près de cet ordre-là. Après, ce qui est assez fascinant chez l'éléphant, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que, évidemment, l'accouplement est très compliqué, puisque on a quand même des mâles qui font parfois 6 tonnes.
Ouais.
Et la femelle a un appareil génital. Oui, faut aller vite, il fait ce qu'il peut quand même, hein. Mais la femelle a un appareil génital qui est éloigné à peu près d'1,30 mètre de l'orifice extérieur. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est ce qui a donné lieu aussi aux adaptations des mouvements, disons, possibles pour le pénis de l'éléphant. Et c'est aussi un caractère qui est probablement un héritage d'un ancêtre marin qui lui permettait d'empêcher l'eau de rentrer en fait dans le corps, donc cet éloignement de l'appareil génital des femelles de l'extérieur. Donc c'est des adaptations chez l'éléphant qui sont assez impressionnantes. impressionnante, quoi.
Vous écrivez toujours sur l'éléphant, Emmanuel Pudebas, hein, donc le mâle effectivement très lourd. Je crois que la copulation, ça doit être rapide, 20 à 30 secondes, c'est ce que vous écrivez. Donc, vaut mieux être précis, aller droit au but, hein.
Exactement. Et oui, c'est rapide parce que forcément, avec des poids pareils, il peut pas rester très longtemps.
Ouais.
Est-ce que les animaux ont du plaisir, Emmanuel Pudebas?
Oui, bien sûr. Le plaisir, c'est pas l'apanage des humains. Heureusement pour eux, il peut y avoir du plaisir sans reproduction dans le monde animal, que ce soit au travers la masturbation, cunnilingus, fellation, enfin tout.
Ah bon? Mais qui pratique la fellation chez les animaux?
La fellation, c'est pratiqué par pas mal de bestioles, hein. Les chauves-souris, par exemple, qui sont pourtant bien mal aimées pour des mauvaises raisons. Les chauves-souris, ça existe même. Je vous donne deux exemples. Des chauves-souris chez les grands singes, ça existe, hein, beaucoup chez les primates, y compris chez les grands singes, et ça existe même chez les araignées. Donc la fellation, elle est vraiment, c'est pas du tout une spécificité humaine, en tout cas.
Mais comment on sait qu'une
chauve-souris peut avoir des fonctions diverses, hein.
Mais comment on sait qu'une chauve-souris prend du plaisir avec une fellation, par exemple?
Alors, en tout cas, on le sait pour certaines espèces. On peut pas étudier toutes les espèces toutes les réactions physiologiques des espèces pendant qu'elles s'accouplent. Mais il y a des modèles qui ont été étudiés, dont par exemple le rat, mais il y en a d'autres, oui, qui montrent très clairement qu'il y a les mêmes réactions physiologiques que chez l'homme pendant l'orgasme, avec par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque, des contractions utérines. Oui. Alors, on peut pas les entendre comme nous parce que c'est dans le domaine des ultrasons, mais vous allez avoir des afflux sanguins, vous allez avoir même d'une libération d'endorphines et d'opioïdes qui sont vraiment des signes de bien-être, de satisfaction, d'euphorie, etc. Donc, ouais.
Alors Camille a relevé un exemple intéressant aussi.
Il fait un peu peur celui-là, le pénis à épines chez la bruche. Je ne sais pas ce qu'est une bruche, un pénis à épines non plus, mais je voudrais en savoir plus.
Chez les insectes, faut quand même reconnaître qu'il y a pas mal d'horreurs en termes de vision humaine, hein, bien sûr. Oui. La bruche, c'est un petit insecte, c'est un petit coléoptère, si vous voulez, pour vous donner une idée, c'est relativement proche des coccinelles et des scarabées. Et en fait, le mâle, il a un pénis extrêmement épineux. Pour transpercer la femelle, les illustrations dans l'ouvrage de Julie Terrazzoni sont, oui, sublimes. C'est bourré d'épines. Ça permet d'accrocher la femelle pour pas qu'elle s'en aille. Hein. La pauvre, j'ai envie de dire. Hein. C'est très anthropomorphique, mais c'est pas grave, c'est très assumé. Et en fait, l'idée quand même du mâle, c'est éventuellement de détruire légèrement l'appareil génital de la femelle pour pas qu'elle s'accouple après lui. Ouais. Vous voyez, c'est
la terre brûlée, quoi.
Mais ça marche bien.
Encore un exemple sur le pénis le plus brillant du monde, c'est chez le batelier d'eau, c'est ça? C'est quoi cette bestiole?
Oui. Il y a des pénis qui servent à communiquer ou intimider. Alors le batelier d'eau, ça fait partie des punaises. Alors là aussi, dans le domaine chez les punaises, il y a énormément d'exemples assez hallucinants en termes d'organes sexuels. Mmh. En tout cas, c'est un petit insecte qui a un pénis chantant, c'est-à-dire qu'en gros, il va frotter son pénis contre son abdomen. Ça va quand même produire à peu près 100 décibels pour vous donner un ordre d'idée.
C'est le Luis Mariano des pénis, alors.
Si vous voulez.
100 décibels,
c'est pas si Luis Mariano, le pauvre. En tout cas, c'est à peu près ce qu'on entend. C'est à peu près un orchestre au premier rang, hein, pour vous donner un
idée.
Ou un barissement d'éléphant.
C'est grand comment?
C'est à peu près l'équivalent.
C'est grand comment?
C'est tout petit. Une punaise.
Autant de bruit qu'un orchestre. Quelques...
Ouais. Oui, c'est un peu. Oui, c'est ce que vous entendez. Un barissement d'éléphant, c'est hallucinant.
Mais ça sert à quoi faire autant de bruit avec son pénis?
Eh ben, pour attirer les filles, monsieur.
Ah, ben voilà.
Voilà, tout existe. Donc c'est voilà,
on
donc il va
pas.
Il va frotter son pénis pour attirer les femelles. Ouais, c'est sûr. Fallait avoir l'idée.
Très bien. C'est passionnant, tous les goûts sont dans la nature, ça s'appelle Sexus Animalus, c'est chez Artaud et vous en êtes l'autrice, Emmanuel Pudebas, avec les illustrations, vous l'avez dit, de Julie Terrazzoni. Merci infiniment d'être passé par chez nous. Hervé Kempf, Que crève le capitalisme, ce sera lui ou non aux éditions du Seuil. Et puis Hugo Clément, Journal de guerre écologique chez Fayard. Il y a quand même des bonnes nouvelles à la fin, hein, pour être.
Il y a des bonnes nouvelles, pas autant que le pénis chantant, mais il y a d'autres types de bonnes nouvelles et d'espoir.
Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui dans l'Inter au Carré. Bon week-end, Camille.
Bon week-end à lundi.
Lundi, rediffusion de la Terre au Carré du 3 septembre, où nous recevions le botaniste Francis Allais. Après le flash, affaire sensible, Fabrice Drouel aujourd'hui, l'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.